Critique religieuse par le Père Philippe à Saint-Judard le 14 mars 90.
Par rapport au cours précédent sur la naissance de l'humilité, c'est quand même beau de voir la naissance de l'humilité parce qu'elle est très cachée. L'humilité, c'est la vertu d'une âme religieuse. Et c'est la vertu la plus cachée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vertu dont on est conscient. On est conscient d'un acte d'humilité. Mais on est conscient d'un acte d'humilité. Et on se cache. Réaliser cet acte. C'est curieux, puisqu'on laisse passer devant l'autre. On est humble par rapport à Dieu, ça nous regarde. Et on est humble à l'égard du prochain. Et ça regarde le prochain et moi. Quand vous êtes humble à l'égard du prochain, qu'est-ce que vous faites? C'est pour laisser le prochain passer devant. Vous êtes en face de quelqu'un qui bavarde en se flattant. Ça existe. Des pis. Vous savez, c'est extraordinaire. Ah, oh, que c'est agaçant. Tout ce qu'il dit, c'est ça. Alors, l'humilité consiste à dire. De manière de se rattraper. L'humilité consiste à insister. En se taisant à ce panégyrique extraordinaire, un auto-panégyrique. Vous voyez, présenté cadavéré. Parce que quand on est dans l'orgueil et qu'on se vante, on est toujours un cadavre. Alors, l'humilité est une vertu, comme nous avions essayé de préciser la dernière fois. Et alors ça, je crois que c'est très important de saisir que l'humilité ne peut naître que dans une âme religieuse. C'est un psychiatre, un médecin homéopathe que j'ai très bien connu. Qui lui montrait combien la plupart du temps beaucoup de désordre, de déséquilibre provenait de l'orgueil. Il était très attentif à ça, en homéopathe. Et il me disait toujours, le gardien de la santé, c'est l'humilité. C'est pas de fou vrai, hein, faut faire attention. C'est un langage de médecin qui quelquefois peut confondre le point de vue moral et le point de vue santé. Mais il y avait quelque chose de juste. C'est que l'humilité nous permet de comprendre nos limites et de ne pas s'exalter. L'humilité, c'est l'acceptation d'avoir les deux pieds sur terre. Sans avoir d'aile et de marcher selon notre petit pas. C'est ça l'humilité. La grandeur dans l'humilité, la magnanimité dans l'humilité, c'est de continuer à faire des petits pas. C'est la fable du lièvre et de la tortue. Il faut être très humble. Accepter de continuer de faire des petits pas quand on voit quelqu'un qui passe devant nous en faisant des grands pas, sans dire. Ça, ce serait pas humble. Voyez comment on se rattrape vite. C'est très difficile de rester vraiment toujours humble. Et quand on reste toujours humble, on est magnanime. Et quand on se rattrape, ce n'est pas l'humilité. L'humilité consiste à avoir un regard vrai sur soi, de dépendance acceptée à l'égard de Dieu et à l'égard de ceux qui nous ont aidés. Quelqu'un nous aurait beaucoup aidé au point de vue éducatif, au point de vue enseignement. L'humilité consiste à reconnaître cela. L'orgueil consiste à oublier ça complètement. J'ai tout reçu de Dieu. Je le possède. Et maintenant, c'est moi. Alors, on rejette Dieu. Une humanité orgueilleuse et collectivement orgueilleuse proclame l'idéologie athée. Elle a oublié son enracinement. Elle a oublié sa source. Vous savez que Dieu... Dieu vous devance et vous aime. Le peuple d'Israël était conduit par la nuée. Voyez l'abandon. On est conduit par la nuée. Dieu nous précède toujours. Pas un cheveu de notre tête ne tombe sans que le Père Céleste le permette. Je crois que c'est ça le fondement de toute espérance. Ça dépasse tout, savoir ça, et de le vivre. Et c'est l'abandon. Donc, voyez, la question suivante ne se pose pas. Je reste dans l'éthique religieuse pour comprendre que dans l'éthique religieuse, l'abandon, c'est l'espérance de ma vie. Je suis conduit par Dieu. Dieu me précède. Et dans l'éthique chrétienne, je verrai comment cet abandon sera assumé par l'espérance théologale. Donc je ne parlerai pas d'espérance religieuse, c'est l'abandon. Ça, c'est une très bonne question. Pour bien discerner le point de vue religieux et le point de vue chrétien. C'est ce que je fais au point de vue de l'analyse. Dans ma vie, je vis une vie chrétienne. Ouais, j'espère. Et vous aussi, vous vivez une vie chrétienne. Cette vie chrétienne assume votre éthique religieuse. Le religieux qui est en vous ne demeure jamais au niveau religieux. Puisqu'ils sont incroyants. Ils construisent. inversement, celle qui est compétente dans telle matière va commander, va conseiller, va pousser à celui qui est incompétent dans la même matière. C'est très vrai. C'est l'amour d'amitié qui permet ce respect mutuel et le fait que l'un passe devant l'autre. Ces incroyants qui se disent incroyants et qui s'aiment, s'ils sont des âmes de bonne volonté, sans le savoir, ils vivent de la grâce du Christ. Et leur amitié pourra durer. S'ils ne sont pas des âmes de bonne volonté et qui s'aiment d'une manière passionnelle, ça ne durera pas. Parce que c'est une maison qui est construite sur du sable. Jésus le dit. Il faut que la maison soit construite sur du roc. Et le roc, c'est la volonté de Dieu. Sur l'un et l'autre. Ils n'ont pas découvert le roc. Mais ils sont de bonne volonté. Et le roc est quand même leur présent. Même s'ils ne le savent pas. Mais ils sont de bonne volonté. Dès qu'on est une âme de bonne volonté, Dieu y pénètre, sans qu'on s'en aperçoive. Si on est une âme de mauvaise volonté, Dieu ne peut pas pénétrer. Ça, c'est très très important de comprendre ça, d'une façon pratique, pas du éducatif. Évidemment, ça fait tout de suite l'intervention de l'éthique chrétienne parmi ceux qui prétendent. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'ignorent, heureusement. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont mauvais chrétiens. C'est très très curieux ça. La soumission favoriserait-elle l'aspect de l'humiliation? Et l'humilité, celui d'une sagesse personnelle. La soumission favoriserait-elle l'humiliation? L'humiliation n'est jamais bonne. Humilier quelqu'un pour le plaisir d'humilier, c'est du sadisme. Là, je te fouette, tu es comme un chien. Oui, on manque de respect à la dignité de la personne humaine. La plupart des gens qui humilient manquent de respect à la personne humaine. Alors on subit une humiliation. On peut transformer l'humiliation. Il faut un très grand amour de Dieu. Donc la soumission, c'est pas la soumission qui favorise l'humiliation. C'est l'amour à l'égard de Dieu. Je crois qu'il n'y a que ça qui permet de tenir. Parce que l'humiliation est mauvaise en soi. On n'humilie pas un être humain pour le plaisir de l'humilier, parce que c'est ça l'humiliation.
Mais dans sa règle, c'est Benoît de permettre. C'est Benoît permet d'humilier.
Ah, oh, envie religieuse. Faisons attention. Le permettre a le droit de vous humilier s'il le juge bon. Ça fait partie, mais c'est pas une humiliation au sens absolu. C'est humilier quelqu'un. L'humiliation, c'est... Alors, évidemment, je peux employer humiliation dans ce sens-là. Vous voyez. C'est un peu du dressage. Vous voyez. J'assouplis quelqu'un. Je vais l'humilier. Attention. Moi, j'aime pas du tout dire je vais humilier quelqu'un. Pas du tout, j'aime pas ça. Au noviciat, un novice peut dire au père maître, je sais que je suis terriblement orgueilleux, alors n'hésitez pas de m'humilier à chaque coin de la rue. bout du deuxième jour, le novice reviendra. Mon père, vous savez, c'est un peu trop. Faut faire attention, faut pas présumer de ses forces. Mais c'est pas la soumission, c'est l'amour qui permet de recevoir les humiliations. Il y a un amour religieux à l'égard de Dieu. Je crois. Et l'humilité, celui d'une sagesse personnellement vécue. L'humilité comme telle, qui naît de l'adoration et de l'abandon, est un merveilleux tremplin pour aller plus loin. Mais je ne peux pas dire que l'humilité est source d'une sagesse. Non. Elle est un élément d'une sagesse. Mais pas source. C'est encore l'amour qui est source de la sagesse. Reflet de Dieu qu'il faut découvrir dans chaque créature ne risque-t-elle pas de réduire cette créature à une qualité au lieu de l'aimer pour elle-même? Ah non. Le reflet de Dieu, ça va très loin. L'imago Dei que je découvre dans chaque créature dans une vision de sagesse. Ça touche ce qu'il y a de plus profond en chacun. Ne risque-t-elle pas de réduire cette créature à une qualité? Non, ce n'est pas une qualité. C'est quelque chose de substantiel. C'est quelque chose de radical. Oui. Le reflet de Dieu. Le reflet de Dieu n'est pas dans les qualités superficielles. Qualités superficielles ne sont pas le reflet de Dieu. Il faut toucher l'âme. Et toucher dans l'âme, dans ce qu'il y a de plus profond. Pouvez-vous expliciter vérité pratique? Oui, je vous ai dit que l'humilité nous mettait dans la vérité pratique. Pourquoi? La vérité pratique, c'est de considérer que nous sommes dépendants de Dieu et que Dieu a pensé à nous et qu'il a sur nous un projet, une intention de vie. Et quand je rejoins cette intention de Dieu et que je veux m'y conformer, je suis dans la vérité pratique. Et c'est ce que Épictète dit magnifiquement. Ce qu'il y a de plus grand dans la vie d'un homme, c'est de se conformer à la volonté de Zeus. Ce qu'il y a de plus grand dans la vie d'un homme, c'est de se conformer à la volonté de Zeus. C'est un païen qui dit ça. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui disent ça. Ce qu'il y a de plus grand dans ma vie, c'est de me conformer à la volonté du Père sur moi. Voilà ce qu'on devrait dire. Ne fallait-il pas que je sois tout entier aux affaires du Père? C'est ce qu'il y a de plus grand. Rien n'est aussi grand que de se conformer à la volonté du Père. Donc la vérité pratique, c'est se conformer à la volonté du Père sur nous. Enfin, vous nous dites que dans chaque créature spirituelle, il y a un reflet de Dieu qui est unique pour chacun. Je le maintiens. Dans chaque créature raisonnable, il y a un reflet de Dieu. Et dans les créatures non raisonnables, il y a un vestige de Dieu, une trace. Dans une feuille, il y a une trace de Dieu. C'est extraordinaire. Et dans chaque homme, il y a un reflet de la sagesse de Dieu. Alors, pouvez-vous expliquer? Eh bien, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est que chaque créature a été pensée par Dieu. J'existe en Dieu de toute éternité dans la pensée de Dieu et dans la sagesse. penser à moi. C'est merveilleux, ça. De toute éternité. Il a voulu qu'il y ait ce petit être qui existe. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de jalousie, là. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Dieu a pensé à nous. Il s'est réjoui, il s'est complu dans cette pauvre petite créature. Au-delà de toutes les bêtises qu'elle peut faire, au-delà de toutes ses fautes, Dieu s'est complu en chacun d'entre nous. Parce qu'il y a en chacun d'entre nous quelque chose qui est voulu par Dieu. Et ce quelque chose qui est voulu par Dieu, c'est justement cela que je découvre grâce à l'adoration. Dans un amour nouveau que j'ai à partir de la création. Pour chaque être spirituel. Dans chaque être spirituel, dans chaque homme, donc, que je rencontre, il y a un reflet de Dieu. Il y a quelque chose auquel Dieu a pensé de toute éternité. Et Dieu l'a aimé. Et Dieu l'a réalisé. Et c'est en comprenant ça et en vivant à ce niveau-là que je réjouis le cœur de Dieu, du Créateur. Créé à l'image et à la ressemblance. Tout ce qui est péché est en dehors de cette pensée de Dieu. Tout ce qui est extérieur, accidentel, est accidentel pour Dieu. Et le per accidens, tout ça est en dehors du regard de Dieu, de ce reflet de Dieu sur moi. C'est pour ça que ça peut être très très beau. Regard, parce que ça essaie de faire comprendre la profondeur du regard de Dieu sur nous. Est-ce qu'il y a des réponses, des questions là-dessus? Alors, on va continuer. Toujours dans cette perspective de l'éthique religieuse. Adoration, abandon, humilité. L'humilité, formellement, consiste à reconnaître cette dépendance radicale à l'égard de Dieu et à l'aimer du côté affectif, à la place d'être en opposition vis-à-vis de ses limites, vis-à-vis de tout ce qui nous limite, qui nous met à notre place. On l'aime parce qu'on sait que Dieu s'en sert pour aller plus loin dans l'amour qu'il a pour nous. L'humilité est une pièce maîtresse pour accepter d'être éduqué et d'être enseigné. Et celui qui vient au cours en disant « Je sais tout ce qui va être dit. » Alors je viens assister au cours pour voir toutes les bêtises que dira le professeur. Et celui-là assiste au cours, non pas avec humilité et un désir de connaître la vérité, mais assiste au cours avec un esprit d'orgueil critique pour essayer de voir ce qui est à côté. Or, dans tous les cours, il y a quelque chose à côté. J'en suis parfaitement conscient. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. S'il y a une recherche de vérité, il y a quelque chose qui est juste. Alors que vous releviez ce qui est à côté, je dirais très très bien, vous n'êtes pas bête. Mais ce n'est pas le but. Je ne loue pas un étudiant qui soit là pour un étudiant de quatrième année. Parce qu'en quatrième année, peut-être comme ça. Il y a un pion. Il y a un gendarme qui est payé pour ça. L'humilité me rend réceptif, dépendant et réceptif à l'égard de Dieu, à l'égard des hommes. Vous savez que c'est une pièce maîtresse dans l'ordre de l'éducation. C'est souvent les manques d'humilité qui empêchent d'avancer, de grandir. On ne s'en aperçoit pas toujours. Qu'est-ce qui s'oppose à l'humilité? L'orgueil. Alors ça, c'est très net que c'est l'orgueil qui m'enferme le plus sur moi. On sait très bien ce que c'est que l'orgueil. Et notre psychologie est une psychologie d'orgueilleux. Notre psychologie est une psychologie de pécheur. Et donc d'orgueilleux. L'orgueil, c'est le péché dominant de toute personne. Je ne parlerai pas tellement de l'orgueil en éthique purement humaine, fondamentalement humaine. Mais on parle de l'orgueil tout de suite dans l'éthique religieuse. Vous voyez, et les traditions grecques le soulignent. L'hubris, l'orgueil, à l'égard du destin, à l'égard de Dieu. C'est à l'égard de Dieu que se manifeste le plus notre orgueil. C'est terrible, c'est comme ça. Parce qu'on accepte pas d'être celui qui a tout reçu. Alors il y a un orgueil collectif qui n'est pas le péché collectif, mais un orgueil collectif qui est un milieu dans lequel on n'accepte plus de se soumettre à Dieu, d'adorer. Alors on se révolte et on veut être parfaitement autonome. On veut avoir une autonomie. Être parfaitement soi-même. Et dans le freudisme, il y a un peu ça. C'est très curieux. Parce qu'au fond, on a toujours peur de recevoir d'un autre le surmoi. Et l'autre est transformé en surmoi. Constamment. À ce moment-là, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le digérer, on ne peut pas l'assimiler. C'est un surmoi. C'est très très étonnant ça. C'est peut-être un des aspects sur lequel on saisirait le mieux la fragilité du freudisme. Parce que l'être humain est un être essentiellement éducable. Et si cet être humain et religieux et qu'il reconnaît sa dépendance radicale à l'égard de Dieu, il acceptera d'être toute sa vie éducable. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui acceptent toute leur vie d'être éducables. C'est-à-dire de progresser et de chercher à aller plus loin. De ne pas s'arrêter en statu quo. On s'arrête en statut de sel quand on regarde par derrière. Alors il faut comprendre que l'humilité est une pièce magistrale, dominante, pour toute vie commune, et très spécialement pour le point de vue de l'éducation et l'enseignement. Et je dis ça à cause de l'orgueil. L'orgueil m'enferme en moi. Un orgueilleux est toujours enfermé en soi. Et l'orgueilleux considère que tout ce que les autres peuvent me donner est inférieur à ce que je possède. Donc, une sainte horreur à l'égard du communautaire. Alors, faisons bien attention ici. Une sainte horreur Ça peut provenir de deux choses. Ça peut provenir de l'orgueil. Ça, c'est vrai. L'orgueilleux n'aime que de se regarder dans la glace. Il est le type d'homme le plus parfait. Donc, se mirer le matin au lever de soleil, à midi en plein soleil, et le soir au couchant. Chaque fois, il y a une lumière différente. Il n'aime que ça. Se mirer. L'orgueilleux se mire. Il considère que tout ce qui peut venir de l'extérieur, en dehors de lui, mais non, 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 ça l'abîme. Donc, il progresse de lui-même et par lui-même dans une auto-éducation qui est la seule bonne. Je n'ai subi aucune influence, si ce n'est à l'égard de moi-même, où je m'éduque. Il y a une horreur, voyez, de ce qui vient de l'étranger, de l'extérieur. Et on veut être uniquement soi-même. On veut dominer par l'intelligence. C'est l'intelligence qui permet l'orgueil. C'est pour ça que certains spirituels n'aiment pas de développer l'intelligence, parce que ça risque de développer l'orgueil. Mais le développement de l'intelligence n'est pas l'orgueil. Vous savez bien ce qu'on dit habituellement. Un grand savant est ordinairement humble. Un petit savant est ordinairement vaniteux et orgueilleux. C'est vrai, ça. L'orgueil consiste à se considérer comme son propre maître et comme la mesure de toute chose. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, l'amour est mesure de tout ce qui vient de lui. C'est le propre de l'amour, de n'avoir d'autre mesure que lui-même. Eh bien, l'orgueilleux consiste considérer que son intelligence étant tellement bien faite, elle est à elle-même sa propre mesure. On attribue à l'intelligence ce qui est vrai de l'amour. C'est très très curieux ça. Et voyez alors, tout de suite le danger, c'est que l'amour est extatique. Et donc l'amour me fait toujours dépasser ce que je suis. C'est pour ça que l'amour peut être à lui-même sa propre mesure. Parce que l'amour implique le dépassement. Celui qui ne comprend pas que l'amour est extatique n'a jamais aimé. L'amour me fait oublier complètement ce que je suis pour n'aimer que celui que j'aime, pour être tout entier tendu vers celui que j'aime. Et je m'oublie. Je ne me regarde plus. Donc, parce que l'amour est extatique, ce n'est pas orgueilleux de dire que l'amour n'a d'autre mesure que l'amour. Il faut un amour véritable. Quand je mets ça du côté de l'amour passionnel, ça n'est plus vrai. Il faut un amour spirituel. Il faut un amour divin. Alors ça, c'est vrai. Tandis que la connaissance, elle implique l'assimilation. Elle n'est pas extatique. Si j'applique ça à la connaissance, c'est terrible. Je m'enferme en moi-même et je n'accepte que ce qui vient de moi. L'orgueil, c'est donc cette soif illimitée d'autonomie et de domination. N'être influencé par personne, tout, que tout provienne de moi. On veut être toujours premier, c'est le propre de l'orgueil. On veut toujours être premier. On n'accepte pas de suivre, d'être second. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est suivre l'agneau. Et ça exprime tout de suite l'humilité. Et au point religieux, être dépendant de la volonté du Père. Ceci, c'est bien le fruit direct. Vous voyez, dans l'orgueil, il y a un repliement de soi. Dans l'humilité, il y a au contraire cette ouverture aimante vis-à-vis de celui qui est avant nous, Dieu et le prochain. Et donc je l'écoute et il m'instruit parce que je l'écoute, et il est capable de m'instruire parce qu'il a quelque chose que je n'ai pas. Et là, orgueil et humilité s'éclairent. Alors comprenez bien que l'orgueil, c'est volontaire. On peut avoir un tempérament ambitieux. On l'a dit pour De Gaulle. Un tempérament ambitieux. Des tempéraments de chef. Ils veulent toujours être premiers. Alors, ceci peut être une matière à l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est cette volonté de n'être que soi pensé. C'est de vouloir dépasser toujours les autres et de relativiser les autres en fonction de nous et de les mettre à notre suite. C'est ça le propre de l'orgueil. Donc c'est volontaire. Et la matière de l'orgueil, c'est notre intelligence en vue de dominer, en vue d'être première. Donc l'orgueil va faire passer devant l'intelligence, va faire passer devant l'amour l'intelligence. L'orgueilleux considère que l'intelligence est suprême. On n'accepte pas que l'intelligence puisse être au service de l'amour. On n'accepte pas que l'intelligence puisse être ordonnée à l'amour. On veut que l'intelligence soit toujours impérative, première, domine. Comme l'orgueil est volontaire, l'humilité est volontaire. Et pour être humble, il faut être intelligent. La caricature de l'humilité, vous savez bien, c'est ce complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité n'est pas l'humilité. C'est pas l'orgueil non plus. Mais le complexe d'infériorité, c'est pas se connaître avec suffisamment de clarté. C'est pas reconnaître toutes les qualités que Dieu nous a données. Et c'est de toujours nous réfugier en nous-mêmes pour ne pas apparaître derrière l'ombre de quelqu'un. Je suis relatif à cette personne. On n'accepte pas de reconnaître l'autonomie. Nous avons une certaine autonomie. Dieu nous la donne. Et Dieu veut que nous soyons capables de poser des actes qui nous situent à travers le temps et les lieux. Ça nous situe. L'humble sait où il est et l'accepte avec amour parce que ça vient de Dieu. Il accepte que d'autres soient plus doués que lui parce que ça vient de Dieu. Soient plus intelligents que lui parce que ça vient de Dieu. Et il se rattrapera du côté de l'amour. Tu es plus intelligent que moi, mais je veux aimer plus que toi. Évidemment, il peut y avoir une coquetterie orgueilleuse, mais normalement, quand on veut aimer jusqu'au bout et être le premier dans l'amour, c'est pas de l'orgueil, c'est la poussée normale de l'amour. Mais alors, un amour qui veut rester amour ne regarde que l'amour. C'est assez subtil, ça, mais je crois que c'est aussi très important. Vous voyez, établir un ordre dans l'amour, ce n'est plus l'amour. Fait aimer le bien qui nous attire. Et c'est ça, seul qu'on regarde. Vouloir établir un ordre, c'est nous qui faisons ça. C'est notre intelligence qui résonne, c'est pas l'intelligence au service de l'amour. L'intelligence au service de l'amour se moque de cet ordre pour n'être qu'amour. Pour être dans la gratuité de l'amour. Parce qu'il n'y a plus de gratuité dès qu'il y a